François Bernard.
C'est jeudi, on retourne en Afrique de l'Ouest avec notre reporter Agnès Rougier. Le karité au Niger, les femmes de Boumba maîtrisent la filière, nous dit-elle. Le karité, c'est une ressource sauvage spécifique de l'Afrique de l'Ouest. Sa croissance très lente le rend difficile à cultiver. Et traditionnellement, ce sont les femmes qui en récoltent les fruits et en extraient ensuite la graisse utilisée pour faire le beurre de karité qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché de Niamey. Mais les femmes de Boumba, réunies en association, aimeraient bien que leurs produits dépassent les frontières du Niger. C'est le reportage de ce jeudi.
Les graines comme ça de karité.
Petites graines rouges.
Ouais. Et là, c'est des graines écrasées.
D'accord.
Donc, tu vois ça, pour les avoir, c'est un noyau. Et c'est couvert d'abord d'un pulpe qu'on fait sucer. Après avoir mangé la pulpe, et maintenant, on a le noyau, on casse les graines. Et c'est la graine-là, on la fait fuire dans un casserole chaud. Quand c'est vraiment bien fuire, et après, maintenant, on l'écrase. Après avoir l'écrasé, on fait bouillir l'eau chaude, on le met dedans, on la fait bouillir toute la journée. Et maintenant, on prélève l'eau qui est sur la surface de la casserole et on met dans l'eau fraîche. Et c'est en ce temps-là, maintenant, tu vas voir, la graisse va s'entasser. Maintenant, ils vont la collecter. Et voilà comment on prend la graisse. Et ça fait beaucoup de temps.
Et c'est ça qui fait le beurre de karité.
C'est ça qui fait le beurre, oui.
Et c'est la seule chose qu'on utilise dans le karité?
L'écorce, elle n'est pas trop utilisée. Et les racines, pareil. C'est l'écorce, les racines, tout celui qu'on voit prélève ça. Les gens se méfient d'eux parce que ça donne beaucoup de mal au ventre jusqu'à tuer la personne.
Alors que la graisse
de la... c'est dans les graines.
Dans les graines, elle n'est pas toxique, elle soigne au contraire.
Elle n'est pas toxique, elle soigne au contraire. Elle est bonne pour la santé, surtout pour les cheveux et pour la peau aussi.
Le karité est un arbre qui pousse exclusivement en Afrique, dans les savanes arborées de la région sahélienne et qui s'acclimate très bien aux sols pauvres et secs. Il y a deux variétés principales de karité et c'est l'espèce Vitellaria paradoxa que l'on trouve en Afrique de l'Ouest. L'arbre à karité est lent à pousser, il ne produit pas de fruits avant sa 15e année et sa pleine maturité n'est atteinte qu'à partir de la 25e année. Mais une fois cette date passée, l'arbre peut produire pendant près de 2 siècles. La récolte des fruits se pratique de juin à septembre et les femmes ne ramassent que ceux qui sont tombés par terre, car ce sont évidemment les plus mûrs, donc les plus gras. Traditionnellement, on estime qu'un arbre à karité produit entre 12 et 15 kilos de noix sèches par an, qui donneront, après traitement, entre 1 et 2 kilos de beurre de karité. Aujourd'hui, nous sommes avec notre guide et traducteur Ama Abdou à Boumba, au bord du fleuve Niger. Et sur la rive d'en face, il y a le cœur, l'aire centrale de la réserve de biosphère du parc du W, où se trouvent les arbres à karité. On arrive à Boumba, les femmes de l'association nous attendent et leur accueil est carrément chaleureux.
C'est Madame la Présidente. Quel est votre nom? Bonjour Madame. Agnès Rougier.
Hamsatou Mama.
Hamsatou Mama, elle s'appelle Hamsatou Mama.
Hamsatou Mama. Présidente de l'association des femmes.
Et c'est le nom de leur association ici, ça s'appelle l'association Zumunchi. Zumunchi, ça veut dire la fierté.
Mona Saïswa, Mona Ti. Muna kuma ba yan uwanmu in sun taho. Oh, muna magani da shi.
Ça c'est le noyau complet.
Ça c'est le noyau complet.
Complet comme ça. Donc on le casse, on arrive à voir le grain dedans.
OK. Ah, voilà la graine.
Ça tu vois, celle-là elle est frite. Elle est frite dans une casserole chaude, donc du coup ça fait qu'elle est noircie comme ça. Après on l'écrase ainsi et on le met dans l'eau chaude, on bouillit et à chaque instant on prélève l'eau. Et on met de l'eau fraîche et c'est la graisse comme ça.
Et c'est la graisse qu'on va retrouver ensuite, ouais, dans le pot qui est là. On la laisse refroidir.
Et tu vois, c'est des marmites comme ça.
C'est des marmites comme ça.
On remplit des graines écrasées. On fait chauffer avec le bois de chauffage. Et toute la journée, il y a quelqu'un à côté qui, à chaque 30 minutes, il collecte la graisse qui est en haut, l'eau qui est, le jus qui est en haut, et il met dans de l'eau fraîche. Et dans quelques minutes, ça s'entasse, tu vois, la graisse est attirée. Voilà, comme ça, petit à petit, maintenant, ils vont encore la mettre. Et jusqu'à encore la remettre dans une petite casserole et la rebouillie, comme ça, pour pouvoir la bien filtrer, enlever certaines graines, comme ça, donc la graisse seulement. Tu vois, là, c'est juste la graisse seulement qui n'est pas du tout sale. Elle est bien lavée, quoi, toute propre. Oui, oui. Ouais.
Ça, mais il faut faire bouillir combien de temps? Des heures?
Ça leur prend toute la journée. Tu fais le matin de bonne heure jusqu'à vers 16h, 17h comme ça. Ils font en train toujours de bouillir et ils collectent toujours. Ils s'abouillent et ils viennent le collecter.
To an yi kiran sallah hakan ga Allahu akbar sai mu tahi tun 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 da sahi cikin duhuwa mu da irin kwanonin ga muka zo muna cintan wanga mu ci mu dauka mu sa cikin kwano mu ci mu dauka mu sa cikin kwano
idi idi c'est chaque matin de bonne heure vers 5h 5h30 quand ça il se lève après la prière du matin bonne heure il prend cette tasse là que tu as vu il se vend dans la brousse pour ramasser les fruits de karité. Ils mangent, ils gardent les mains jusqu'à arriver ici maintenant. Ils amènent aussi ceux qui ne sont pas mangés. Maintenant, ils partagent avec les enfants. Et chacun va collecter pour lui et déposer comme ça. Après, il prend le noix, il prend le bois aussi. Il prend le bois aussi.
Mu dauko mu saro mu azo ga kai mu to mu kama da huwa in mun dawa sai mu zube sai mu shanya sai mu bidi duti irin wanga duti babba
casser avec un caillou. Ah oui, ça se casse facilement avec un caillou, mais une par une quand même, hein. Il en faut combien de graines de karité pour faire un bac comme ça?
La quantité, tu vois, de la tasse qui est en bas.
La tasse qui est en dessous, enfin le bac en dessous.
De ça comme ça, ça donne.
Et ça donne cette marmite entière.
Bana cikin da manan gaban bo mutanen da ne sun kawo mana injimomi gudunmuwa.
Il dit cette année, ils ont un don de l'association de Béninois qui les a amenés des usines comme ça qui va les aider beaucoup. À part ce qu'on les a amenés par les Canadiens, ils ont encore eu une deuxième don par les Béninois aussi.
Quand vous dites des usines, c'est-à-dire c'est une machine?
C'est des machines façon qui vont.
Pour les écraser?
C'est pour écraser. Oui.
D'accord, bah oui, parce que. D'accord, Moukaï.
Il dit avant, ils pilaient ça. D'accord. Et maintenant, tu vois, ils écrasaient ça avec les machines. Il dit, il y a trois machines. Il y en a un qui fait casser les coquilles. Le deuxième aussi, ça fait frire les graines. Et il y a la troisième, ça fait moudre les graines. Et donc, comme ça, ça leur permet juste facilement d'aller mettre la marmite et chauffer l'eau et collecter facilement.
Et c'est beaucoup mieux.
Ouais.
Parce que déjà, aller cueillir les graines, c'est loin, il faut les rapporter, c'est beaucoup de travail.
Maintenant, ils ont eu aussi une usine aussi qui les aide à faire les moules, les briques de savon. Parce qu'ils ont des briques, donc ils ont des briques de savon qu'ils font. Quand ils le font maintenant, ils les laissent se refroidir toute la nuit. Le lendemain, quand ils partent déjà, maintenant, il suffit de couper et mettre le cachet de la marque de leur association et ils vendent ça sur les marchés. Il y a beaucoup de touristes comme nous, on passe ici, ils payent ça, qui connaissent beaucoup la beurre de karité. Il y en a qui payent la pommade. Et aussi le savon.
D'accord. Donc, qu'est-ce que vous faites? Il y a de la pommade, du savon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Et après aussi pour la consommation.
Et pour la consommation. Ok. Et à chaque fois, c'est un bon. Vous faites l'emballage aussi, ce qui vous va vous permettre de le vendre au marché. Il y a un emballage?
C'est juste l'emballage, c'est ça. Et les savons, et déjà, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas un grand emballage, on ne l'emballe pas parce que déjà, il faut des sacs plastiques. Donc, pour lutter comme ça, dans un milieu bien sûr comme ça, il ne faut pas des sacs plastiques parce que ça fait plus de pollution et tout ça. Mais on les vend comme ça sur les marchés. Bon, s'il y a des cantons, ils n'ont pas encore eu la chance d'avoir leur canton en personne, mais ils les mettent dans un carton d'autres savons et en même temps, ils les vendent sur le marché.
Carinia. C'est les étiquettes des prochains pots. De karité du Niger parfumé. L'Union des productrices de karité de Boumba. Falmay. Vous êtes contente de l'association, du résultat?
Oui. Ils sont très contents de leur association et tout, à part même celle de faire écraser les graines, en même temps écraser les noyaux et les graines et faire fuir aussi. Avant aussi, il fallait qu'ils mettent ça dans le pilon, remuer ça pour avoir la graisse. Mais maintenant, ça ne vaut pas la peine pour les. Ils ont eu une machine qui va les aider aussi à faire tout ça facilement. Ils collectent la graisse Ça, c'est vraiment se fatiguer comme avant.
Quoi. D'accord. Mm-hmm. Bon, alors, donc, il vous manque quoi maintenant ? Un réseau pour la vendre ? Plus de publicité ?
Une machine pour les amener qui fait en même temps filtrer la graisse qui va enlever tous les déchets, qui va leur donner que le pur. Les graisses seulement.
C'est pour ça qu'elle est si propre.
Propre. Leur problème, c'est seulement ils ont besoin de clientèle. De celui qui va les aider à la publicité, de hein, aussi avoir un commande, un opérateur qui va venir payer, aller vendre ça ailleurs, même si c'est à lui d'amener ses pots ou quelque chose comme ça, et ils sont prêts à partager avec lui.
Vous faites partie de l'association. C'est vous qui livrez le beurre de karité à Niamey, alors, on me dit.
Et c'est elle qui amène ça à une de sociétés, Soussi Niger, pour vendre ça. Souvent, quand elle amène ça, facilement, elle arrive à voir des gens qui paient. Mais ces derniers temps, maintenant, il y a des fois aussi, quand elle amène ça, il fallait qu'elle la laisse là-bas et confier à quelqu'un, venir comme ça, quand il paye, il envoie de l'argent. Donc, du coup, ils n'ont pas beaucoup de gens qui payent, de clientèle, quoi.
Pour faire de la publicité, là, comme sur ce pagne qui est le pro-carité, appui à la filière carité, vous faites partie de ce réseau?
Oui, c'est pourquoi ils ont amené ça. En fait. C'est un des réseaux qui les appuie aussi parce que c'est, je crois maintenant ça va être centralisé, interrégional quoi. Tu vas jusqu'à Niger,
Benin, Mali, Burkina, Sénégal,
Sénégal, Mali, il y a Burkina aussi. Tout là où il y a Bénin, tout ça, donc tout là où il y a le karité, donc qui font le beurre, donc on les a associés, donc ils partagent entre eux.
Ouais. Et vous avez des échanges avec le reste du réseau?
Jusqu'à présent, ils se communiquent entre eux, ils gardent toujours les relations entre eux, ils font partage de connaissances et de nouvelles, ils font toujours les devoirs de connaissances aussi, tout ça. Et en même temps, aussi, ils ont encore eu maintenant une autre organisation qui voulait les appuyer de plus sur cette métier. Donc, du coup, ils espèrent aussi qu'avec eux, ça va bien passer.
Et quand ils font des échanges, c'est parce qu'elles se voient sur les marchés ou est-ce qu'elles se voient avec les femmes du Burkina ou...
Burkina, muga ayukan juna. Dan Burkina muga ayukan su kuma su gana mu. Sai mu tashi mu tai.
C'est une association qui les fait déplacer par des missions pour aller voir qu'est-ce que font les travaux des gens, de comment les gens de Burkina ils font la collection de leur beurre, et aussi ceux de Bénin, ceux de Mali, c'est ainsi de suite, des réunions comme ça convoquées qui fait qu'ils voyagent en même temps. Quoi. C'est une ONG qui les, en fait, qui les associe. Quoi.
C'est quelle ONG? C'est l'ONG qui est marquée sur le pagne hein. C'est celle-là? C'est Pro-Carité?
CFC.
CFC. Un Common Fund for Commodities.
Projet d'appui technique.
Alors, qu'est-ce que vous avez appris en allant voyager au Burkina ou au Bénin, voir comment travaillent les autres? Vous avez appris des choses?
Quand ils sont partis là-bas, ils ont vu les gens de là-bas, ils les ont associés et jusqu'à voir construire un bâtiment et à exposer des moteurs dedans, des machines pour la prélevation de beurre, faire des briques, de savon ou bien de pommade comme ça. Et jusqu'à maintenant, ici, ils ont eu un appui par le projet de puis financé par les Canadiens qui fait qu'ils ont fait la même pareil ici. Ils ont les matériels maintenant. Et Dieu merci, à travers ça, ça les facilite beaucoup le travail par rapport à avant.
Dans la mesure où Boumba est dans la zone de transition de la réserve de biosphère, le village a été directement concerné par la mise en place de formations et d'échanges lancés par le programme Hommes et Biosphère de l'UNESCO. Sahelou Soumaïla, directeur de la réserve de biosphère du parc du W du Niger, a donc été l'artisan de cette relation entre les communautés et la réserve. N'oublions pas que l'objectif du réseau des réserves de biosphère est d'améliorer le quotidien des villageois tout en gérant les ressources naturelles de façon durable. Sahelou Soumaïla.
Il y a une activité très promoteuse que d'ailleurs les autorités nigériennes nous ont dit il faut vous lancer dans ce sens. C'est l'éducation environnementale. Nous mobilisons chaque année, nous envoyons des jeunes nous les organisons. Ils font des animations, des excursions dans le parc pour leur montrer tous ces aspects écologiques, les relations entre l'environnement et la biodiversité, tout ça, la chaîne alimentaire. Et vous voyez des jeunes qui sont très motivés et ils comprennent un peu ce que nous sommes en train de faire et ils s'engagent à agir dans le sens de la conservation. Ils sont souvent accompagnés par les maires, par les élus locaux, par les encadreurs. Et du coup, on est en train aussi d'intégrer cette éducation environnementale au niveau des écoles. Voilà, et ça c'est une activité promoteuse. Et du coup, en termes de développement local, vous voyez un peu la dynamique qui est engagée envers les femmes, notamment si vous prenez la Bumba, où vous avez des femmes dynamiques qui sont en train aussi d'exploiter les beurres de karité, qui cherchent à valoriser ces beurres en faisant quand même aussi bien les beurres et utiliser les sous-produits pour d'autres choses. C'est des actions à petite échelle que les autres paysans, à travers les échanges, dans le cadre du programme MAB UNESCO, ils voient que c'est du concret et ils disent « Ok, nous-mêmes, on va aller tenter au niveau de notre territoire. » Un paysan, il voit son collègue faire une activité, il voit que c'est concret. Il demande à son collègue paysan « Comment tu as pu faire pour aboutir à des résultats ?» Et il s'élance. Donc, et nous, dans le cadre de ce programme, effectivement, du côté du Niger, nous avons accueilli pas mal de visiteurs. Au niveau du Mali, réserve de biosphère de Boukroub de Baou, nous avons reçu deux missions importantes qui sont venues au niveau de la réserve du Niger pour voir ce que nous sommes en train de faire. Ils ont beaucoup apprécié. Ils disent vraiment, nous sommes en train d'engager une dynamique favorable au développement local. Nous avons accueilli au moins quatre missions de Panjari qui sont venues vers nous pour voir ce que nous sommes en train de faire en termes d'exploitation des ressources naturelles, en termes de valorisation des ressources, en termes de suivi écologique. Et nous pensons que c'est important de voir les autres pays. Je ne parle pas aussi des autres parce que les Sénégalais sont venus, ils ont apprécié. Les Burkinabés, Mar Ozipo, sont venus. Et je pense que ces échanges sont très, très, très importants. Ça incite les gens à aller dans un bon sens. Ça incite les populations locales à éviter les actions néfastes pour la conservation. Et du coup, je pense que nous sommes en train d'aller dans un bon sens.
Est-ce qu'il y a une relation entre l'association et la réserve de biosphère? Est-ce qu'on vous a aidé, par exemple, à Ouadam?
Vraiment, l'aide qu'ils le font beaucoup, c'est que comme déjà le parc, ils savent que c'est interdit de rentrer dedans. Mais ils ont une autorisation de rentrer, aller chercher un peu de bois mort et aussi aller récolter les graines aussi des beurres de karité, ramasser là-bas. Comme ça, parce qu'il y en a qui rentrent là-bas, ils prennent les karité, ils savent qu'ils ne sont pas mûrs. Maintenant, comme ils se sont associés entre eux pour ne pas toucher à ces graines-là, les laisser jusqu'à quand c'est mûr, comme ça accueillir, collecter les graines et revenir là, ils ont l'autorisation de faire. Et pour ça, ils sont vraiment très contents de cette biodiversité aussi.
Ah d'accord. Mmh. Et c'est-à-dire qu'elles traversent la rivière pour y aller.
Oui, ils traversent le fleuve pour aller faire la queue des fruits de karité. Parce que dans le parc, il y en a pas mal.
La filière est bien lancée, mes soutiens et commandes seront les bienvenus. Alors, pour contacter l'association, le plus simple est peut-être de passer par l'administration du parc W. Voici donc une adresse postale, boîte postale 721 Niamey, Niger. Il y a aussi un email, ecopass@intnet.ne, ecopass, ecopass@intnet.ne. Et si vous voulez tout savoir sur le karité, le site internet de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement est très complet. L'adresse www.unctad.org/infocom, infocom avec deux M. Cette émission est terminée. Merci à Ama Abdou pour ses traductions et à vous, auditeurs, pour votre écoute. Au revoir.
Une émission de Radio France Internationale, produite en partenariat avec le réseau MAB UNESCO, la Commission canadienne de l'UNESCO et le Fonds français pour l'environnement mondial.
Voilà. un reportage d'Agnès Rougier, mis en onde par Alain Bleu. On retrouve le duo, ce sera mardi prochain sur le fleuve Niger encore, mais pour parler pêche cette fois.
C'est pas du vent, @rfi.fr.
Il est l'heure de TerraTech. Nous découvrons aujourd'hui la montre verte qui mesure la pollution. Dominique Dezonnet, bonjour.
Bonjour et bienvenue dans TerraTech. Choisir chaque matin son trajet pour aller au travail en fonction de la pollution, c'est possible à condition d'être équipé d'une montre verte.
TerraTech Actu.
En bref.
Des nouvelles de la planète avec notre expert Jean-Paul Hébrard, rédacteur en chef du mensuel Agriculture et Nouvelles Technologies. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour à tous.
Solaire, écrivez-le, sol, apostrophe, la lettre R, est le premier dirigeable à énergie solaire. Il s'apprête à traverser la Manche, tout juste un siècle après Louis Blériot.
Il a été créé par des élèves ingénieurs de l'INSA, l'Institut National des Sciences Appliquées. L'aéronef a été baptisé Néphélios. Il dispose de deux panneaux solaires sur la partie supérieure de son enveloppe. L'énergie recueillie alimente au moteur électrique. Solaire, c'est un projet 100% vert et il constitue une véritable alternative au pétrole dans le secteur aérien.
TerraTech, l'entretien.
La montre verte est une montre un peu spéciale puisqu'elle est équipée de différents capteurs qui vont récolter des données sur l'environnement.
Cette montre est associée à un téléphone portable. Les données récoltées sont ensuite utilisées par les chercheurs, par des instituts de veille environnementale ou tout simplement par les citoyens.
On peut dire que le possesseur de la montre devient un capteur ambulant au service de la communauté. La montre verte avec Thierry Marceau, directeur du programme Ville 2.0 à la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération.
L'idée qu'on a derrière la tête en faisant fabriquer cette montre, c'est de démontrer que les citadins peuvent devenir coproducteurs d'un certain nombre de services urbains, notamment de services environnementaux et pourquoi pas de mesures de la qualité de l'air et du bruit dans la ville où ils habitent. Alors comment ça marche cette montre ? Donc nous avons ces deux capteurs qui mesurent en permanence, on le voit sur l'écran ici, le niveau de décibels, le niveau d'ozone. On a un téléphone mobile, c'est l'élément indispensable dans ce dispositif. Le téléphone mobile, il a deux fonctions. Il renifle la montre via Bluetooth, un protocole de communication. Donc il affiche déjà sur l'écran du téléphone ses données sous la forme d'un œil dont les couleurs varient en fonction des niveaux mesurés. Et puis surtout, ce téléphone transmet les données sur un serveur. Nous, on appelle ça maintenant une plateforme de données ouvertes. Et à partir des données produites par tous les porteurs de la montre verte, on va pouvoir établir des cartographies collaboratives des territoires parcourus par les porteurs de la montre verte. Dans ce projet, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de démontrer l'intérêt de mettre en place ce qu'on appelle, nous, des plateformes de données ouvertes. C'est-à-dire que ces données stockées et produites par les montres vertes, elles vont pouvoir être mixées par un certain nombre d'acteurs très différents. Il y a des acteurs publics, comme les gens d'Air Paris, par exemple, qui mesurent la qualité de l'air à Paris. Il y a la même chose dans toutes les grandes agglomérations, qui vont pouvoir réutiliser ces données pour les mélanger avec le leur et améliorer leur propre travail. Il y a des labos de recherche et il y a pourquoi pas des start-up qui vont pouvoir récupérer ces données pour les mâcher, comme on dit, c'est-à-dire les croiser avec d'autres données et imaginer de nouveaux services de téléphonie mobile innovants pour les urbains branchés d'aujourd'hui.
Alors pourquoi ne pas avoir intégré directement cette montre dans le téléphone ?
Pour plusieurs raisons. D'abord, pour mesurer la qualité de l'air et le niveau du bruit, il vaut mieux avoir quelque chose qu'on porte au poignet, quelque chose qui est au fond de sa poche. La deuxième raison, mise en avant d'ailleurs par un certain nombre de nos partenaires, dont les opérateurs de téléphonie mobile, c'est qu'il faut que le téléphone reste un téléphone. Mais on ne va pas en rester là. On a déjà des partenaires autour de nous, notamment des partenaires hollandais avec qui on va démarrer un travail. Et eux, ils ont tout de suite dit, nous, ça ne sera pas une montre. Ça sera peut-être un tissu, une écharpe, parce que ce sont des gens qui font du tissage électronique, du tissage numérique. Mais ça pourrait être aussi une sorte de broche de quelque chose qu'on pourrait clipper à différents endroits. Et notamment, ça répondrait au vœu d'un de nos interlocuteurs récemment, père de jeunes enfants qui sont encore dans des poussettes, et qui dit, moi, on mesure toujours la qualité de l'air à hauteur d'homme, mais pas à hauteur de bébé. Lui, avec notre montre verte sous forme de clip, il pourrait clipper ça sur sa poussette et il pourrait faire des mesures adaptées à ce type de population.
On ne peut plus concevoir de nouvelles technologies ou de
nouveaux services sans penser au Green IT, à cette vague verte qui envahit aussi les technologies.
Nous, nous sommes des acteurs de l'innovation. Et évidemment, dans nos domaines de l'innovation, c'est devenu aujourd'hui une sorte de paradigme incontournable. Le Green IT, le Green Design, le développement durable. Bien sûr que nous sommes, d'une certaine manière, obligés d'intégrer tout ça dans nos réflexions, dans nos travaux.
TerraTech, c'est terminé. Retrouvez toutes ces infos en ligne sur www.rhi.fr ou encore www.tvagri.info. Et si vous avez des questions et des suggestions, vous pouvez nous écrire à terratech@rfi.fr.
Merci Dominique Dezonnet. Demain dans TerraTech, il sera question de compteurs intelligents pour faire, dit-on, des économies d'électricité. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Sophie Janin, à Laura Podorowski, à Pierre Bompi et Antonin Dulé, indispensables à la réalisation de ces Pas du Vent. Prochain rendez-vous demain, bien sûr. Même planète, même heure, en Évé aujourd'hui. C'est une langue parlée dans l'ouest du Ghana. Voilà, merci à Evans Kokroko, enregistré tout à l'heure en ligne d'Accra, où il enseigne le français. Allez, à demain.